J'aime bien l'agité du local du vendredi.
Ah oui, c'est le grand entretien. Eh, monte le son.
Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2024 et c'est une journée particulière parce que c'est la journée internationale des droits des femmes et il est essentiel de le souligner, d'en parler parce que les droits des femmes évoluent, parfois avancent, parfois reculent. Toutes les femmes du monde ne possèdent pas les mêmes droits et cela influence automatiquement leur chemin de vie. Aujourd'hui, pour l'occasion, l'agité du local est sortie des studios. Nous sommes en direct et en public au Palindrome à Laval et je suis en très bonne compagnie puisque je suis accompagnée de Sophie Pasquet, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. À mes côtés également, Mayanne Roquette, vous êtes directrice et juriste au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Merci également d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Ensemble pour le grand entretien du vendredi, nous allons justement aborder cette question des droits des femmes ensemble. En fin d'émission, nous retrouverons, comme à notre habitude, l'agenda culturel de la semaine. Mais je le disais, aujourd'hui, nous sommes donc le 8 mars 2024 et aujourd'hui, l'agité du local se concentre sur cette journée particulière, la journée internationale du droit des femmes. Pour commencer, Sophie et Mayanne, je vous propose que l'on comprenne un peu mieux vos rôles et vos missions. Sophie Pasquet, vous êtes déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Alors, c'est un poste, on est une ou un par département, un délégué départemental. Et donc moi, je suis agent du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, donc au sein des services de l'État. Et l'objectif, c'est de mettre en œuvre la politique publique de ce ministère qui comporte différents aspects. La lutte contre les violences faites aux femmes, notamment les violences conjugales, mais aussi la lutte contre la prostitution, par exemple. La promotion de l'égalité professionnelle, la promotion d'une culture de l'égalité dès le plus jeune âge, et également tous les aspects concernant la santé des femmes.
Donc en fait, vous amenez dans notre département, chaque délégué amène dans le département, contrôle, voit ce qui se passe sur le département en termes d'action peut-être, pour faire appliquer en fait ce qui est proposé au niveau de l'État, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Il y a tout un aspect d'animation partenariale. On travaille avec les autres services de l'État aussi, puisque c'est une politique qui est interministérielle également. Donc il y a un aspect à l'éducation nationale, par exemple, c'est traité au sein des services du travail, au sein des ARS pour ce qui est de la santé. Donc il y a un travail largement partenarial et puis de soutien aux associations comme le CIDFF qui mènent des actions en faveur des droits des femmes.
Et justement, Mayanne, je me tourne vers vous. Donc vous êtes juriste et directrice du CIDFF en Mayenne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement le rôle, les missions du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles ?
Alors, le CIDFF Mayenne fait partie d'un ensemble d'associations réparties sur tous les territoires nationaux. Il y en a 98, il y en a au moins un par département. En Mayenne, ça a été créé en 87 et ça émerge d'un mouvement des années 70, les premiers mouvements féministes, les premières grandes étapes sur le droit des femmes. Nous, en Mayenne, chaque CIDFF est différent, mais on a un projet associatif commun qui est de viser à mettre en œuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, faire accéder chacun à ses droits, que ce soit ses droits sociaux ou juridiques. Donc j'ai deux collègues conseillères en insertion professionnelle, puisqu'on sait bien également que l'autonomie des femmes passe par l'emploi. Et on a des politiques d'intervention sur l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge, dont une intervention dans les écoles qui marche assez bien, avec un outil qu'on a réalisé en Mayenne, avec une fresque sur des cours de récréation, pour apprendre aux tout-petits à l'égalité homme-femme, le respect de l'autre et la lutte contre les stéréotypes de genre.
Et donc, vous accueillez du public, en fait, au sein du centre, notamment de l'information ou...
En juridique, on a cette année un peu plus de 1300 personnes reçues. Les informations juridiques sont confidentielles et gratuites. Et on a des permanences sur tout le département. Villaine-la-Juhel, Ernée, Cran, Loiron, Mélédumaine, Évron, Château-Gontier. J'en oublie, mais voilà, on est présent sur tout le département.
Et donc j'avais envie d'aborder ce qu'il se passe aujourd'hui en France. 78 associations, syndicats et organisations politiques lancent un appel à la grève et invitent à cesser de travailler aujourd'hui, à cesser de consommer et d'effectuer des tâches domestiques pour les femmes afin de dénoncer les inégalités dont sont encore victimes les femmes à travers le monde. Je pense que c'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'évoquer justement ces inégalités qui persistent, peut-être dans vos expériences personnelles, notamment vous, Maïane Roquette, dans l'expérience de terrain que vous effectuez quotidiennement. Quelles sont les inégalités encore les plus fortes ? Pourquoi est-ce qu'on s'adresse encore au CIDFF aujourd'hui sur notre département ?
Alors, en droit pur, il n'y a plus grand-chose à traquer pour dire... il n'y a plus grand-chose dans les textes qui vont dire que la femme n'est pas l'égale de l'homme. Et le dernier texte date de 2002, et ça concernait une théorie en droit des successions qui s'appelle les comourants. Et quand une femme et un homme qui pouvaient être appelés à la succession l'un de l'autre étaient âgés entre 15 et 60 ans décédés, on considérait que l'homme était réputé avoir toujours survécu à la femme, ce qui était très inégalitaire, puisque imaginons qu'il soit sans enfant, et là, on est dans un milieu rural où les terres pouvaient passer à la famille de l'un ou de l'autre. Ça, cette théorie, en décembre 2001, ça a été supprimé, rentré dans le code en 2002. Il n'y a plus rien à traquer dans le code. On a remplacé parents, par hommes, femmes. Enfin, on a vraiment traqué tout ce qu'il y avait. Mais dans les faits, et là, Sophie en parlera aussi bien que moi, mais c'est dans les tâches ménagères, dont la grève dont vous parlez, on se rend compte que même si les femmes aujourd'hui travaillent à 90%, c'est-à-dire qu'elles travaillent quasiment autant que les hommes, et que sur les salaires, on parle de médian dans le gros écart, mais à salaire, à vraiment profession égale, fait exactement la même carrière, l'écart n'est plus si élevé que ça. C'est encore trop, mais il est de l'ordre de 8-9%. Il ne demeure pas moins que les femmes ont sur leurs épaules énormément de tâches qui ne sont pas du tout encore réparties.
Donc des inégalités dans différents domaines, la vie privée, mais on parle également de la vie professionnelle. Et c'est intéressant de se poser cette question-là. On entend parler notamment des inégalités de salaire, on entend différents chiffres, Sophie. Mais en fin de compte, ces chiffres, de quoi ils parlent, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Vous en avez amené avec vous, je crois.
Oui, c'est intéressant. Alors, si vous voulez aller plus loin, il y a les chiffres clés de l'égalité qui sont publiés chaque année par le ministère. Et ce qui est intéressant de voir dans les chiffres des inégalités salariales, c'est que... Il y a différents aspects. Effectivement, à poste égal, l'inégalité est à peu près résiduelle. Elle est même descendue jusqu'à 4% là, dans les derniers chiffres. Donc ça, c'est intéressant de le souligner. Mais néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de discrimination. Et notamment, comment font les femmes pour accéder aux postes les mieux rémunérés ? Et c'est là où le plafond de verre existe toujours et où on constate encore des inégalités, notamment pour accéder aux postes les plus rémunérés. Ce qui fait que quand on regarde à équivalent en temps plein, les inégalités augmentent à peu près de l'ordre, on est plutôt de l'ordre de 14%, 13% d'inégalités entre les femmes et les hommes en équivalent temps plein. Ce qui veut dire que la différence, ça va être sur l'accès aux postes les mieux rémunérés, comme je disais, sur le plafond de verre, mais aussi les choix des métiers. Donc le CIDFF a fait un travail l'année dernière d'une vidéo sur l'élargissement des choix professionnels qui est très intéressante, qu'on peut retrouver sur le site mayenne.gouv.fr. Et justement, l'idée, c'est d'essayer de travailler sur l'orientation des femmes pour oser aller dans les métiers les plus rémunérateurs. Et la question aussi de la rémunération des emplois qui sont plus féminisé, qui est plus faible. Donc là, il y a cet écart-là qui est de l'ordre de entre 13 et 15% selon le secteur. Et puis après, si on regarde dans la population générale, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes en général, donc là, ça veut dire qu'on va prendre en compte l'effet temps partiel qui est largement pris par les femmes à 80%. Et là, on est plutôt d'un différentiel de salaire de l'ordre de 23%. Et donc, on voit que derrière, il va y avoir des impacts aussi sur les niveaux de retraite entre les femmes et les hommes, etc. Donc, c'est des choix liés à l'orientation professionnelle, les choix des métiers, et puis après, dans l'évolution des carrières où les femmes, à partir du moment où elles deviennent mères, ça a été documenté. En fait, c'est largement lié à la famille, finalement, vont être freinées dans leur carrière, ce qui n'est pas le cas des pères. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ça en tête pour pouvoir justement travailler sur les questions d'orientation, sur les questions de partage des tâches et de congés paternité, par exemple, qui a été augmenté récemment, qui va pouvoir aider aussi la carrière des femmes, finalement. Donc on voit ce lien entre la famille et la vie professionnelle.
Oui, il est important de souligner qu'en fait, toutes les parties de la vie, le domaine professionnel, le privé, tout ça s'imbrique, tout ça se croise. Et j'avais envie de revenir sur le point, vous parliez d'orientation. Il est vrai que finalement, on remarque que des femmes, des jeunes femmes, des jeunes filles, dans leur parcours, des fois n'envisagent même pas certains métiers, certaines professions. Encore aujourd'hui, alors qu'il y a évidemment une évolution, et encore aujourd'hui, on remarque que les jeunes n'envisagent pas forcément certains métiers qui sont typiquement masculins. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour concrètement, auprès de ces jeunes, pour essayer d'inciter justement à entrer dans certaines filières.
Alors la vidéo dont parlait Sophie, on a fait une vidéo mayenno-mayennaise avec des témoignages de femmes mayennaises qui sont dans des métiers non traditionnellement féminins et qui y sont extrêmement heureuses, c'est-à-dire qu'il faut élargir les horizons. Donc on intervient dans les écoles au niveau des collèges au moment de l'orientation pour faire évoluer les stéréotypes liés au genre qui sont des stéréotypes qui ont la vie dure. Notamment sur le monde dans l'industrie, alors qu'il y a des tas de postes dans l'industrie, de postes à pourvoir, il y a encore une idée de charge lourde et ces choses-là ont évolué, parce que moi je me souviens il y a quelques années on avait beaucoup de mal à avoir des femmes qui conduisent des bus. Aujourd'hui vous regarderez le nombre de femmes qui conduisent des bus, alors qu'on faisait des espèces de sensibilisation et formation parce que ça paraissait impossible que petit et menu on conduise un gros autobus, et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a presque plus de femmes. Donc on voit quand même qu'il y a des choses qui évoluent, mais ça passe par de la sensibilisation et pas que des jeunes, de leurs parents également. Parce que dans cette articulation des temps qui est attendue des femmes, les parents vont dire, n'oublie pas de prévoir le jour où tu auras des enfants, il faut que tu aies un métier. Et bon, mais je suis assez optimiste parce que je trouve que dans les jeunes générations, les deux souvent travaillent et les garçons sont de plus en plus prêts à ce que les femmes, elles aussi, puissent réaliser leur vie professionnelle et ils mettent une éthique dans leur pratique professionnelle et une envie d'avoir une vie ils mettent une éthique aussi bien écologique ou environnementale que sociétale en considérant comme normal qu'une femme puisse elle aussi réussir sa vie professionnelle et sa vie familiale. Et c'est des choses qui bougent parce qu'il y a quelques années un père qui prenait un congé paternité, c'était parce qu'il avait le petit salaire. C'était absolument pas un choix de vie en disant je vais m'impliquer dans la vie de mes enfants. Généralement, ça faisait plutôt rigoler ses copains parce qu'en disant tu es à la maison. Et alors qu'aujourd'hui, on peut voir des couples qui auraient un niveau équivalent et qui font des choix respectueux l'un de l'autre.
Effectivement, l'agrandissement d'une famille, l'arrivée d'un enfant était un enjeu pour la carrière des femmes il y a encore quelques temps. Et alors, il y a des nouvelles choses qui arrivent par rapport au congé parental, congé paternité. Sophie, vous pouvez nous en dire quelques mots? On n'en entend pas forcément énormément parler.
Oui, alors le congé paternité a été augmenté. Il est passé de 11 à 25 jours. Donc ça permet aussi d'être un peu plus présent au domicile sur des périodes qui sont... l'arrivée d'un enfant qui est toujours très chargé pour les parents. Donc, ce qui va permettre aussi de limiter aussi les freins dans la carrière liés au congé maternité pour les femmes, le fait que ça s'équilibre un peu plus entre les femmes et les hommes. Et après, vous parliez aussi sur l'orientation, du rôle des parents, etc. Moi, je voulais signaler aussi un travail que va faire le Zoom là, cette année, le Centre scientifique et technique de CCSTI et industriel de la Mayenne, justement sur les choix d'orientation, pour justement impliquer les parents, impliquer les jeunes dans la réflexion autour des choix d'orientation et essayer d'inciter les filles à aller vers ces métiers scientifiques et techniques qui sont peut-être aussi rémunérateurs, intéressants, et sur lesquels elles osent un peu moins aller. Alors ça peut être aussi lié au fait qu'elles sont un peu moins nombreuses dans les classes d'ingénieurs, etc. Je pense qu'elles s'orientent plus sur ces matières, sur ces domaines-là quand elles ont vraiment un excellent niveau en sciences, alors que les garçons vont oser y aller avec des notes un peu moins élevées. Donc c'est intéressant de se dire c'est aussi possible d'aller vers les écoles d'ingénieurs, vers les métiers scientifiques et techniques quand on a une bonne moyenne, mais sans forcément attendre d'être excellent partout. Et c'est intéressant aussi dans la vidéo que le CIDFF a fait l'année dernière de voir aussi un homme dans des métiers plus féminisés, parce que c'est ça aussi qui va permettre l'égalité, d'avoir aussi des hommes dans les métiers d'aide-soignante, dans les métiers d'infirmier.
De l'importance de montrer des nouveaux modèles, vous le disiez aussi, et ça c'est aussi le rôle des parents, de montrer justement, il est possible de faire ces métiers-là, regarde cette femme chauffeuse de bus, ou les modèles, ils sont importants en fait pour s'identifier et puis se projeter soi-même dans l'avenir.
Puis je rejoins Sophie sur le fait que les salaires, vous savez, autrefois, il y avait un salaire féminin. Le salaire féminin, jusqu'en 1946, c'était la moitié du salaire d'un homme. Ça, il s'était calibré, et c'est la moitié du salaire d'un homme. Donc ça, ça a été supprimé en 1946. Bon, tout à l'heure, on l'abordait, mais la femme a eu le droit de travailler sans l'autorisation de son mari et d'ouvrir un compte bancaire en 1965. Donc c'est quand même pas si ancien que ça. Hein, et ce n'est pas en 1946 également, alors que souvent, les gens associent tous ces mouvements-là tout au même moment, le droit de vote et tout, et pas du tout. Et les femmes, on considérait que souvent que les femmes étaient dans des métiers qui étaient beaucoup moins valorisés. Et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire dans les métiers de service à la personne ou d'aide aux personnes handicapées ou âgées, on va considérer qu'il ne faut pas de compétences, alors que si on est soudeur, il faut des compétences. Alors je ne suis pas du tout sûre qu'il ne faille pas du tout de compétences pour s'occuper d'une personne handicapée ou d'une personne âgée. Et ça, on le rejoignait sur tout ce qui est aidance. Quand on fait des études, nous on avait porté un projet sur aider les aidants, quand on fait donc les gens qui aident un conjoint ou un parent handicapé ou un enfant handicapé, on se rendait compte que dans les études statistiques, les hommes sont aussi nombreux que les femmes à se dire aidants. Mais quand on affine un peu, l'homme il va faire la déclaration d'impôt de son vieux papa qui a la maladie d'Alzheimer, et la femme elle va y passer deux fois par semaine pour organiser des choses ou porter des repas, etc. Donc on se rend compte que le taux d'aidance finalement, c'est pas du tout la même chose, mais l'un comme l'autre dans les chiffres. Dans les chiffres, on voit qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui se disent aidants. Et sauf que dans la part de ce qui est fait, la part de ce que va avoir fait la femme va être beaucoup plus dévalorisée. Faire la soupe, c'est beaucoup moins compliqué que de remplir les déclarations d'impôts, gérer les relations de travail avec les travailleurs familiaux, etc. Et c'est pourtant des choses qui sont très chronophages et qui doivent être revalorisées. Donc quand on parle d'évolution du droit des femmes, je pense qu'il faut arriver à mieux considérer le travail que les femmes vont faire spontanément, et qui n'est pas du tout aussi peu, qui nécessite énormément de compétences, énormément.
On parlait des charges lourdes, par exemple. Bah, c'est vrai que travailler dans un EHPAD ou travailler dans la santé, dans le soin, c'est aussi des ports où avec les jeunes enfants, bah, c'est vrai que les enfants, on les porte beaucoup. Les femmes portent beaucoup les enfants. Les puéricultrices, les aides-soignantes vont aider beaucoup. Et finalement, ça peut être plus lourd que dans certaines industries où là, il va y avoir des systèmes mis en place aussi pour justement avoir ce port qui est réalisé par des machines, etc. Donc finalement, le fait d'exclure les femmes des métiers dits difficiles physiquement, finalement, ce n'est pas forcément ceux auxquels on pense, les métiers qui vont être aussi physiquement difficiles. Voilà.
On reviendra tout à l'heure sur cette question justement des droits des femmes, mais avant ça, je vous propose une petite pause musicale avec Hyphen, Like a Boy. Écoutez.
Say, don't you ever let it go, it's over. Cause you know I think I'll wish for better. You back on a roller coaster. Say, remember when you shut the fuck up, baby? I'm still in it a little longer. When I say no, no, you tell no. I play it so low, no, you want my worst hangover. Now the answers, cause it's never over, say.
Nous sommes de retour dans l'agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Aujourd'hui, l'agité du local est sortie des studios pour une émission en direct et en public dans le hall du Palindrome à Laval à l'occasion de la journée des droits des femmes. Et donc, je vous le rappelle, je suis très bien accompagnée aujourd'hui puisque je suis avec Sophie Pasquet, déléguée départementale du droit des femmes et à l'égalité entre hommes et femmes, et Mayanne Roquette, directrice et juriste au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. J'ai envie de poursuivre ce grand entretien avec ce moment historique. Ce lundi 4 mars 2024 est une date qui marque donc l'entrée de l'IVG dans la Constitution. Il y a un demi-siècle, après l'adoption de la loi Veil de 1974. Et pour ne pas manquer de contextualiser en quoi cette date est importante, j'ai envie de continuer avec une citation de Simone de Beauvoir qui disait: n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis, vous devrez rester vigilante votre vie, toute votre vie durant. Donc effectivement, on constate que depuis quelques années, et même avant ça, il y a un recul du droit des femmes partout dans le monde. Et l'Occident n'est pas forcément épargné, si je parle notamment de la question de l'IVG. Et on peut citer un chiffre quand même important, 50 000 femmes décèdent chaque année en ayant recours à des avortements clandestins. D'après vous, pourquoi ces droits reculent? Pourquoi ce droit est remis en question aujourd'hui? Par exemple, Mayanne Roquette.
Dans le monde?
Dans le monde, oui, pardon.
Dans le monde, alors on voit bien effectivement, comme vous l'avez dit en préambule, il peut y avoir des raisons religieuses, et c'est vrai que dès lors qu'il y a des théocraties qui se mettent en place ou qui reprennent le pouvoir, il va y avoir des reculs, puisque tout va être fondé sur cela. Il peut y avoir, et ça c'est à craindre, parce que même dans nos sociétés occidentales, on a une baisse de la natalité, qui fait craindre, aujourd'hui il n'y a plus le renouvellement de la population, hein, c'est le cas dans un grand nombre de pays, et le nôtre y compris. Du coup, on peut craindre qu'un jour, il y ait des mesures qui soient beaucoup moins autorisant la régulation des naissances pour des raisons économiques, parce qu'il faut bien voir que le droit, il suit la société, en fait. C'est pas le droit qui crée la société, c'est la société qui est mûre pour des avancées, et les avancées se passent. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a cette liberté garantie dans la Constitution pour les femmes, et comme tous les textes, alors ça c'est la question des pyramides, de la hiérarchie des normes et de la pyramide des normes, ça les juristes me comprendront, tous les textes qui vont paraître en France devront toujours être conformes à la Constitution. C'est le plus haut texte en France. Donc à partir de là, on peut considérer que pour la liberté de pouvoir avorter, pour une femme de disposer de son corps et de pouvoir avorter, en France, ça paraît acquis. Maintenant, on peut imaginer que dans des pays industrialisés, y compris des pays avec des démocraties, on peut imaginer, attention, on n'en est pas là, mais si vraiment on a une baisse de la natalité qui se continue comme ça, on pourrait imaginer des reculs. C'est pour ça qu'il était important de le garantir dans la Constitution.
Et donc, je précisais que effectivement, en Occident, on remarque un recul de ces droits. Par exemple, on l'a vu aux États-Unis avec l'interdiction de l'IVG après la révocation de l'arrêt Roe versus Wade en 2022. On peut également citer plus en Europe Malte qui autorise l'IVG, mais de manière très restrictive. La Pologne qui rend l'IVG quasi illégal, excepté dans les cas de viol, d'inceste ou de danger pour la mère. Et en Hongrie, depuis septembre 2022, un décret impose aux femmes qui veulent avorter d'écouter les battements du cœur du fœtus avant de se décider. Donc c'est important de montrer qu'effectivement les choses peuvent bouger et donc que c'est une vraie victoire finalement en France quand même, cette entrée de l'IVG dans la Constitution.
Oui, c'est intéressant, notamment qu'elle a été largement adoptée, en fait. Et ça, c'est c'est une, voilà, quelque chose dont on peut se réjouir en France.
Donc on est le premier pays d'ailleurs à avoir ajouté dans la Constitution cet accès, cette liberté d'accès à l'IVG. Je pense que le mot liberté aussi, il a été questionné, il est important d'en parler. Quelle est la différence entre le mot droit d'accès à l'IVG et liberté d'accès à l'IVG? Qu'est-ce que ça change concrètement?
Disons que le droit, ça oblige à le garantir. Voilà. Donc il y a le terme garantir qui est aussi noté dans ce texte hein, quand même. Et ça a permis, je pense, d'avoir une plus large majorité également pour intégrer cette liberté au sein de la Constitution. Donc aujourd'hui, cette liberté, elle est garantie au sein de la Constitution. Un droit, ce serait un peu comme le droit au logement opposable, c'est-à-dire qu'on pourrait aller exiger aussi les conditions matérielles d'accès. Alors aujourd'hui, en France, il y a cet accès sur lequel il y a un travail aussi dans le cadre de la démographie médicale et de proposer aussi cette possibilité au plus près et aux proximités des personnes. Et on parlait en préparant cette émission de l'Italie, dans laquelle il y a aussi donc ce droit est existant, mais avec un nombre de médecins qui font valoir leur clause de conscience un peu plus élevé. Donc il y a aussi ces questions après d'accès réellement à ce droit, donc voilà, qui est existant en France, mais qui peut être un peu plus ou moins compliqué en fonction du fonctionnement des services de santé, par exemple.
On arrive bientôt à la fin de cette émission. J'ai envie de vous poser une question. Quels sont les changements législatifs ou politiques que vous espérez pour l'avenir concernant le droit des femmes? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets, des nouvelles avancées en cours, des nouveaux sujets de discussion au gouvernement, peut-être? Concernant le droit des femmes, quelles sont les priorités du gouvernement aujourd'hui?
Donc les priorités du gouvernement en matière de droit des femmes, ils sont inscrits dans le plan Toutes et tous égaux interministériel, donc la santé des femmes, donc prendre en compte les spécificités aussi des femmes. Par exemple, on pense aux maladies cardiovasculaires, donc il faut pouvoir bien les dépister, etc. Voilà. Donc la santé des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes, évidemment. L'égalité professionnelle, on en a parlé. Il va y avoir aussi un impact de la loi Rixin, puisque jusqu'à présent, on avait des quotas avec la loi Copé-Zimmermann pour les conseils d'administration. Là, désormais, il va y avoir aussi ces quotas dans les instances dirigeantes des entreprises. Donc, elle va avoir des effets aussi pour l'avenir, cette loi. Et puis, en matière de famille, on a parlé du congé paternité. Il y a des réflexions aussi pour faire évoluer le congé parental prochainement. Donc voilà, on va suivre tout ça avec grand intérêt.
Alors oui, Sophie a dit en matière de droit, mais moi j'ai surtout envie de dire que cette avancée pour les droits des femmes et les garantir, ça passe aussi par les hommes. C'est-à-dire que je n'aime pas le féminisme que posent les hommes et les femmes. Je pense que le féminisme doit passer par les hommes et que c'est ensemble qu'on va arriver à continuer à faire progresser les droits des femmes dans les faits.
Merci Mayane, merci Sophie d'avoir été avec moi aujourd'hui. On va passer maintenant à l'agenda culturel, amis auditeurs. Et donc, on commence cet agenda culturel au Théâtre de Laval et la compagnie Les Cambrioleurs qui vous propose la pièce La Tendresse ce mardi 12 mars. La Tendresse pose la question de ce qu'est être un homme aujourd'hui. Elle se penche sur le lien qu'entretiennent les jeunes hommes avec la construction de la masculinité. La pièce est mise en scène par Julie Bérès, qui a effectué un grand travail documentaire avant l'écriture de ce spectacle, qui met en scène 8 jeunes interprètes de sensibilité et d'horizons sociaux divers. Ils interrogent ensemble ou en solo via la danse hip-hop et le théâtre performatif ces codes et ces injonctions qui façonnent l'identité masculine. La pièce est jouissive et joyeuse et vous serez porté tout du long par cette très forte énergie collective. Allons maintenant à Sablé-sur-Sarthe au théâtre L'Entracte le vendredi 15 mars. Est une invitation au rire avec la compagnie Zygomatique et son spectacle Climax. La pièce tire la sonnette d'alarme et s'attaque aux questions de l'urgence climatique. Elle est interprétée avec un humour scientifiquement absurde tout en abordant les sujets brûlants actuels. Ici, le rire est utilisé comme une arme de réflexion massive avec sur scène des comédiens, chanteurs, musiciens, danseurs et mimes qui nous embarquent dans un road movie férocement drôle, fertile et libérateur. Vous pourrez découvrir sur la scène Joël Le Teul à Sablé-sur-Sarthe. Vous pourrez le découvrir sur la scène Joël Le Teul à Sablé-sur-Sarthe et venir accompagner de vos enfants à partir de 8 ans. Et comme il reste quand même quelques jours avant la rentrée des classes, n'oubliez pas que le 6x4 à Laval et l'association Poc Poc, depuis le 4 mars, déploient sur Laval Aglo son festival « Monte dans le bus ». Ne manquez pas le village qui s'installe au 42 mains. Vous pourrez y passer la journée comme y rester un court moment accompagné de vos enfants. Un grand choix d'activités, de découvertes vous seront proposées gratuitement. Évidemment, encore des spectacles auront lieu jusqu'au 10 mars. J'ai par exemple envie de vous parler de Mazarin et Alexis Aurélou qui vous raconteront une histoire en concert dessiné le dimanche 10 mars à 15h au Théâtre des Trois Chênes à Loiron. Alexis manipule pochoirs, stylos et aquarelles dans son atelier éphémère pendant que Mazarin dévoile des chansons folk dépouillées sans artifice. Avec eux, un troisième acteur qui est en fait le grand écran. Il montre les mains à l'œuvre de Alexis, grâce auquel deux personnages prennent vie sous vos yeux. Un grand moment de poésie pour clôturer ce festival Monte dans le bus. Et alors on termine cet agenda culturel avec Le Carré à Château-Gontier. On embarque dans un univers, dans celui plutôt du cirque. On écoute Maël Grenier, directeur du Carré, nous en parler.
Au mois de mars, jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 mars, j'ai la joie d'accueillir avec toute l'équipe le chapiteau de la compagnie Rasposo, une compagnie de cirque qui vient présenter Oraison, son dernier opus, sa dernière création. Ça fait 2 ans que nous attendons de les accueillir. Il faut savoir que la compagnie Rasposo est une compagnie traditionnelle de cirque contemporain, c'est-à-dire que la famille vit et la famille est en itinérance permanente avec son chapiteau, ses roulottes. Donc c'est une famille emblématique du milieu du cirque et qui nous ont proposé à travers Oraison une lecture de, on va dire, de la société actuelle, on va dire de la lecture sensible de notre société d'aujourd'hui, qui est malgré tout assez anxiogène, assez complexe à appréhender. On peut l'apparenter à une forme de chaos contemporain. Donc ils en ont fait une lecture poétique, onirique, évidemment circassienne, puisque c'est leur discipline de prédilection. Et si vous voulez, c'est difficile à décrire comme spectacle, c'est une expérience à traverser. Comment on peut sortir de cette ambiance un petit peu lourde, un petit peu suffocante, de la frénésie contemporaine dans laquelle on est, de la surconsommation? Comment on peut essayer de trouver une trajectoire poétique, retrouver du sens, d'être avec l'autre, un sens aussi philosophique de sa propre vie? Oraison parle de ça avec une lecture très originale. Il y a du fil de fer, il y a du lancer de couteau, il y a du contorsionnisme, il y a de la roussière, il y a plein de disciplines, mais qui sont au service d'une poésie, une poésie de l'intime, une poésie humaniste. C'est remarquable comme lecture circassienne, je trouve, actuelle. Et du coup, nous avons la chance de le proposer 3 fois. Donc on espère évidemment que le public qui a déjà, a priori, pas mal réservé, sera nombreux sur les 2e et 3e représentations, parce que le bouche à oreille, nous l'espérons, fonctionnera. Et le chapiteau sera installé sur le parking de l'espace Saint-Fiacre, donc normalement bien en visibilité des gens qui circulent à Château-Gontier pour découvrir et se rendre curieux de cette discipline.
Et donc, avant de terminer cet agenda culturel, quelques mots sur le Printemps des Poètes qui s'étend du 9 mars au 25 mars sur nos ondes. Chaque jour à 7h45, 14h et 18h, vous pourrez y découvrir un poème de notre sélection. L'agité du local s'arrête ici. Merci à Mayanne Roquette d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Sophie Pasquet de m'avoir également accompagnée sur cette émission. Et bien sûr, merci à Caroline de m'avoir accompagnée à la technique tout au long de cette émission et David Morin pour l'aide à l'installation technique, son accompagnement. Et bien sûr, merci pour le café. L'agité s'arrête, mais ça continue sur l'autre radio. D'ailleurs, votre soirée commence à 19h avec Dance Hall Social Club. On commence le week-end avec des sucreries musicales du passé. Et alors, un coup d'œil sur la programmation du week-end. On commence samedi avec Lettres de Gaza. À midi, on enchaîne avec le Labo des Savoirs et c'est Rock Dreams qui commence votre après-midi à 13h, une après-midi musicale. Ce samedi, Rock Dreams vous parlera du groupe Gruppe Schnitt. J'attends d'ailleurs que notre programmateur Joël me félicite pour cette prononciation exceptionnelle. Rock à la Casbah prend la suite, sans oublier Radio Vedette. Ce dimanche commence plus sportif avec l'équipe de Sport Épique. Ils vous parlent actualités sportives, chroniques et interviews seront au rendez-vous. Et tout ça, bien sûr, enrobé de la bonne humeur qui les définit si bien. Avant de redémarrer une nouvelle semaine, dimanche soir, vous aurez le plaisir d'écouter l'émission du Poil sous les bras qui nous aide à mieux comprendre les systèmes de domination dans le monde actuel. Moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du local. D'ici là, n'offrez pas de cadeaux aux femmes. Aujourd'hui, c'est la journée des droits des femmes, pas un anniversaire. Prenez soin d'elles, prenez soin de vous. Enfin, vous l'avez compris, faites-le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.